Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Je vous ai présenté toute l'équipe d'À la bonne heure. Maintenant, je vous présente notre invité. Lorsqu'il est devenu immortel, le 6 juin 1974, celui qu'il avait reçu sous la coupole de l'Académie française, Thierry Monnier, lui avait prédit « Vous êtes et resterez sans doute assez longtemps le plus jeune d'entre nous. De fait, si parfois il nous a donné quelques inquiétudes, il a franchi allègrement en juin dernier le cap des 90 printemps, preuve que le plus dur est fait. Mais vous avouerez avec moi, chers amis auditeurs, que ses yeux bleus pétillants et sa voix malicieuse commençaient à nous manquer. » Mais comme tous les gamins, il a fait sa rentrée en ce mois de septembre en publiant un nouveau livre, non pas un roman ou un essai dans lequel il aime distiller ses passions pour Dieu, Mozart et Chateaubriand, Venise et les femmes, mais un recueil de chroniques publié depuis 35 ans dans Le Figaro et Le Figaro Magazine qui prouve si besoin était que ce pessimiste joyeux n'a jamais vécu isolé dans une bulle dorée loin des affaires du monde. Bien au contraire, il se place résolument au cœur de la société, témoin privilégié des soubresauts de notre vie politique, dénonçant, à l'instar d'un Chateaubriand, son maître, les errements d'une société à la dérive, lui, l'éditorialiste de droite et l'intellectuel dont le cœur vibre au centre-gauche. En fait, le cœur, il est toujours au centre-gauche. À lire « Dieu, les affaires et nous », publié chez Robert Laffont, on ne peut s'empêcher de penser que cet homme délicieux qui a la politesse et le courage d'être heureux est aussi le meilleur auscultateur de la France qu'il aime passionnément. C'est dire, puisqu'il est auscultateur, que c'est un bon médecin pour nos maux. Avec nous ce matin, Jean d'Ormesson de l'Académie française.
On peut se lever pour Jean d'Ormesson.
Non, parce que
c'est vrai, vous êtes un peu la France.
C'est une espèce de standing.
Oui. Non, c'est vrai, vous êtes la France.
Oh mon Dieu, tout le monde est la France.
Ah, c'est ce que dit Jacques Julliard.
Jacques Julliard qui
préfère. C'est ce que dit Jacques Julliard.
Il dit vous êtes la France.
Oui. Écoutez, j'ai beaucoup de chance avec mes préfaciers. La Pléiade est préfacée par quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Fumaroli. Mmh. Et ce livre-là est préfacé par Julliard, qui est un homme de gauche, pour qui j'ai la plus haute estime, beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration. Et peut-être que ce qu'il y a de mieux dans ce livre, c'est la préface.
Oui, voilà, ça y est, vous jouez votre petit jeu de dire que
fishing
les autres...
Fishing for compliments,
voilà,
disent, hein,
non, non, évidemment, la préface est à la hauteur, mais il a dû se hisser à la hauteur de vos textes. Voilà ce qu'on peut dire. On est heureux de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous d'abord ?
Très très bien, merci.
Vous avez l'air d'être en pleine forme.
Oui, ça va mieux. Ça, on n'en parle plus.
On n'en parle plus.
Vous portez mieux que la France.
Oui, ça va mieux qu'avant. Oui.
Non, mieux que
il
la France.
Sent, il me semble que je rajeunis chaque jour.
Oui. Non, ce qu'il disait, c'est...
Je crois que je vais finir dans l'état d'un petit enfant. Oui.
Mais c'est vrai que vous allez mieux que la France, non ?
La France, oui, difficilement.
Oui.
Difficilement. Ne nous laissons pas aller au pessimisme.
Non, non.
Mais enfin, si je vous disais que tout va au mieux dans le meilleur des mondes, vous croiriez que je me fous de vous.
Oui, absolument. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit quelqu'un qui est à la fois immortel, vous êtes de l'Académie, qui est aussi au paradis, selon votre propre expression, parce que vous avez déclaré que pour un écrivain, être publié de son vivant dans la Pléiade, c'est le paradis. Est-ce que le fait d'être publié dans cette collection, qui est la plus prestigieuse de la littérature française, vous a touché en plus que votre élection au Quai Conti ? Parfois, vous dites, c'est le paradis, c'est mieux qu'un prix Nobel.
Écoutez, évidemment, ça m'a touché. Ça m'a plus ému que l'Académie, oui, ouais, sûrement.
Ah ouais.
L'Académie, je suis très heureux à l'Académie. L'Académie est une réunion de gens remarquables. Il y a même quelques écrivains,
oui.
Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns.
Oui, oui. Il y a des femmes aussi.
Ouais, il y en a deux ou trois qui sont bons, même.
Le cumul est autorisé.
C'est, oui, on peut être bon écrivain et femme.
La Pléiade, la liste... Quand je suis entré dans la Pléiade, Antoine Gallimard m'a donné la liste de ceux qui sont entrés vivants dans la Pléiade.
Oui.
Alors, c'est André Gide, Monterland, Malraux, Claudel, Yourcenar, Ionesco, Lévi-Strauss, qu'est-ce que vous voulez ? C'est écrasant. C'est écrasant. Alors, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui disent qu'est-ce qu'il vient faire dans cette compagnie. Si.
Enfin, il y en a quelques-uns, oui, qui l'ont
dit. C'est la meilleure vente de la Pléiade.
Oui, c'est ce qui est inquiétant, parce que le fait d'avoir je suis très heureux d'avoir beaucoup de lecteurs. Mais le fait d'avoir beaucoup de lecteurs n'est pas une garantie pour l'avenir. Les exemples de grands écrivains qui n'avaient pas de lecteurs sont innombrables. Vous savez qu'à l'enterrement de Stendhal, il y a 3 personnes. L'éducation sentimentale de Flaubert, qui est un livre magnifique, a été très mal accueillie. Les gens qui ont du succès au 19e siècle, bien sûr, c'est Victor Hugo. Mais c'est aussi Eugène Sue.
On ne lit plus beaucoup.
Fonction littéraire, on ne lit plus du tout. Et alors, disons les choses comme elles sont, il y a des gens qui ont dit, vous l'avez sûrement entendu, c'est un coup commercial de Gallimard de prendre dans la Pléiade quelqu'un qui... Alors j'ai dit aux gens de la Pléiade, n'en vendez pas trop. Parce que les grands écrivains...
les meilleures ventes, mais enfin, vous passerez de toute façon à la postérité. Jacques Julliard, dans la préface, dit « Jean d'Ormesson est un homme de droite qui regrette de ne pouvoir être de gauche. »
Oui, c'est assez vrai.
C'est bien, hein, ça. Ouais, c'est une bonne définition.
Vrai, c'est assez vrai.
Mais en même temps, faites petit effort.
Vous savez, je fais quelquefois des efforts pour être à gauche. Et ces efforts sont quelquefois couronnés de succès quand je parle à un homme de droite. Oui. Souvent, je me dis, décidément, je suis à gauche.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais quand je parle à un homme de gauche, je me dis, ah non, tout de même. Alors, évidemment, j'ai des relations étrange avec mes adversaires. J'aime beaucoup mes adversaires.
Oui.
C'est vrai. C'est un défaut, vous savez.
Pourquoi ?
Ça m'a empêché de faire de la politique. La politique,
ah oui, il faut...
la politique consiste à dire « j'ai raison et vous avez tort ». Eh bien, c'est une attitude que je ne supporte pas. Je suis plutôt du côté de Paul Valéry qui disait « je suis rarement de mon propre avis
». Mais ce qui est formidable, et on va y revenir, c'est que vous racontez les entretiens avec François Mitterrand et vous étiez absolument en désaccord avec lui, mais vous preniez plaisir à ses entretiens. Et de même que lui parlait d'un écrivain brillant, mais stupide politiquement.
Oui, j'avais adoré. Tout ce livre est évidemment, quand je l'ai relu, je me suis dit, Mitterrand est présent.
Oui, très présent.
Ça avait mal commencé. Oui. J'avais écrit un article dans le Figaro. Le canard enchaîné m'avait ramassé. Je convoque le président de la République au tribunal de l'histoire. On avait mis ça sur 6 colonnes. Et le canard enchaîné avait dit, qui est cet inconnu? Et Mitterrand avait été formidable dans un petit discours en province. Il avait dit, quel dommage qu'un si bon écrivain soit si stupide politiquement. Évidemment, ça m'avait enchanté. J'ai écrit. Et alors, vous voyez, il y a des malédictions. Ça recommence avec Hollande.
Il veut vous voir tout le temps?
Ça recommence avec Hollande. Hollande est un adversaire. Non seulement il est un adversaire, mais il reste un adversaire. Mais qu'est-ce que je vous dis, je ne peux pas le cacher, il m'a fait grand croix de la Légion d'honneur.
Oui.
Vous ne croyez pas que je l'ai demandé?
Non,
je ne l'ai pas demandé.
Mais vous l'avez accepté?
J'ai hésité.
Ah bon?
J'ai hésité, je me suis dit que le canard enchaîné, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que je mange à tous les râteliers.
Non, parce que
il n'y a pas que le canard enchaîné dans la vie.
Vous êtes un monument, donc on peut...
Je suis, disons les choses très simplement, vous, très simplement, je suis ce que les Japonais appellent
un trésor national
vivant.
Oui. Exactement. Et comme on veut vous garder vivant et en pleine forme le plus longtemps possible, on vous décore.
Oui, et alors il m'a décoré. Il a fait un discours irrésistible. Oui.
Il est drôle.
On était, c'était dans l'intimité la plus stricte. Il y avait la famille, il y avait 10 personnes. Et il a dit, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous faites pour être si populaire.
Et vous lui avez donné la recette?
Non, son discours était charmant et moi j'étais un peu intimidé. Et les rôles étaient renversés. C'est lui qui faisait un peu, qui pétillait un peu. Et moi j'étais très solennel et engoncé, j'étais un peu intimidé quand même. Mais moins intimidé que par la Pléiade, qui évidemment, ça m'a fait plus d'effet que la Légion d'honneur ou que l'Académie.
On va y revenir dans un instant. Dieu, les affaires et nous. Jean d'Ormesson est notre invité ce matin sur RTL dans À la Bonne Heure.
RTL à la Bonne Heure. Stéphane Bern.
Et on revient donc à Dieu les a fait un maillot express.
Oui, oui, nous sommes le 21 septembre et c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est important d'en parler. Hein. Alzheimer, c'est une maladie qui frappe partout, hein, même au sommet de l'État. Et il paraît que François Hollande, la maladie l'a terrassé à une vitesse. J'ai fait un rapide calcul. Sachez qu'en moins de 3 ans, non seulement il a déjà oublié les 2/3 de ses promesses, mais en plus il a réussi à appliquer celles que Nicolas Sarkozy n'a pas eu le courage de tenir. Voilà.
Maillot express. Merci Régis. Justement, à propos de Jean d'Ormesson, de notre invité, Dieu, les affaires et nous, publié chez Robert Laffont, on a parlé de François Mitterrand, de François Hollande, mais au fond, là j'étais un peu étonné, c'est que vous êtes très indulgent avec Nicolas Sarkozy, vous lui vouez une certaine admiration, et vous parliez de littérature avec lui ?
Oui, bien sûr que je suis lié avec Sarkozy, j'ai beaucoup d'estime pour lui, je parle littérature plus volontiers avec Mitterrand, oui, ou même avec Mélenchon. Et Sarkozy est un homme pour qui, je crois, on a été un peu injuste.
Et puis, il y a cette phrase de Chateaubriand, évidemment, que vous aimez citer, c'est « Vous êtes économe de votre mépris parce qu'il y a beaucoup de nécessités. »
C'est une phrase de Chateaubriand que j'adore. « Il faut être économe de son mépris étant donné le grand nombre des nécessiteux.
» Mais vous êtes incapable de mépriser les gens.
Oh, il y en a que je méprise, vous savez. Je méprise ceux qui... Je connais beaucoup d'hommes qui sont devenus plus ou moins importants et qui maintenant sont très durs pour ceux qui ne le sont pas. Eh bien, ça, je trouve ça très méprisable. Je trouve très méprisable ceux qui sont polis, attentionnés avec les gens puissants et brutaux avec les autres. Ceux que j'admire, c'est ceux, au contraire, qui sont un peu brutaux avec eux-mêmes et qui sont doux avec les autres. C'est ce qu'on appelle des saints. Et finalement, je crois qu'il n'y a plus que les saints que j'admire vraiment.
Mais vous êtes d'une certaine manière, et c'est peut-être pour ça que vous parliez tout à l'heure au Japon, on dit un trésor national vivant. Mais vous êtes un peu le dernier des Mohicans.
Je suis un peu le dernier. Oui, c'est vrai, vous savez, j'écris, il faut bien dire, j'écris en moins bien, en beaucoup moins bien, j'écris un peu comme Mérimée ou comme Alexandre Dumas. Et évidemment, dans 20 ans, plus personne n'écrira comme ça. Nous avons assisté à deux révolutions formidables, l'électronique et le numérique. Et le numérique va évidemment tuer un certain type de style qui aura duré de Pascal et de Corneille jusqu'à Aragon et à Yourcenar, que je prolonge comme je peux, vaille que vaille, à la barre comme je te pousse, mais je suis un des derniers à écrire comme ça.
Et cette phrase ne rentrera jamais sur Twitter.
Elle est trop longue.
Oui.
Remarquez, j'aime aussi les choses très très courtes.
Oui, comme les aphorismes.
Que c'est le mépris de Chateaubriand ou les pensées de Proust. J'appelle ici amour une torture réciproque. Ça, c'est formidable. Voilà.
Que dire
très courtes, oui, comme ça.
Cher Jean d'Ormesson, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après.
Stéphane Bern,
à la bonne heure,
sur RTL.
Et nous sommes toujours en agréable compagnie en ce lundi matin avec Jean d'Ormesson, Dieu, les affaires et nous. Et c'est chez Robert Laffont, mais nous retrouvons maintenant, comme je vous l'ai promis, Tanguy Pastureau, c'est le médium des médias.
Le médium des médias.
Tanguy Pastureau.
Alors Tanguy, vous lisez dans Notre Avenir.
Oui Stéphane, et cette semaine j'ai lu dans Les yeux de Jean d'Ormesson, Ces petites billes bleues qui rappellent aux riches la mer qui court sur la plage à Deauville et aux pauvres le canard WC des toilettes. Alors, je vois plein de choses, comme le mari de Kim Kardashian quand il la regarde. Je vois que M. d'Ormesson est un monstre sacré qui entre dans la Pléiade. C'est énorme. C'est comme si Ribéry entrait dans Okapi. Après Jean Piat, il y a 15 jours, c'est le deuxième mythe vivant que je rencontre ici. Je croise plus de mythes que si j'ouvrais le dressing de Michel Houellebecq. Si vous invitez en plus Aznavour, autre légende, j'aurai enfin des conseils en optimisation fiscale. Puisque Stéphane, vous refusez de prendre ma mallette quand vous allez au Luxembourg, au motif que les vôtres remplissent déjà tout le coffre. Je vois aussi que Jean d'Ormesson est parfois surnommé Jean d'eau, abréviation qui ne se ferait pas s'il s'appelait Jean Bitoun. Je vois que mardi, Stéphane Bern consacrera un secret d'histoire à Jeanne d'Arc, cette dame que les Rouennais ont pris à tort pour une merguez. Stéphane nous rappellera à quel point Jeanne d'Arc était en avance, puisqu'elle a inventé l'iPod. C'était la première à entendre des voix dans sa tête, et ce, sans casque. Je vois aussi qu'avant ça, bon, vous recevrez ici l'acteur Manu Payet. Il joue dans un film pour lequel il a dû laisser pousser sa barbe et prendre un peu de ventre. Il fait la synthèse entre Régis Maillot et Patrice Carmouze. Film réalisé par Emma Lucchini, donc fille de Fabrice Lucchini. Une femme épuisée depuis l'enfance, car petite, son père lui racontait des histoires qui duraient 4h30 avant de dormir. Je vois qu'à 11h25, Stéphane, vous vous écrirez « Foutre bleu ». Moi aussi, j'entends des voix, la pucelle est entrée en moi. Mais en fait, ce sera juste Alex, notre réalisateur, qui vous aura dit à l'oreillette qu'il est temps de lancer la pub « Cruelle désillusion ». Je vois que mercredi, l'invité d'À la bonne heure sera Nathalie Dessay. Nathalie, c'est sans H, hein, alors que Noah, c'est avec. Nathalie Dessay est cette cantatrice capable de monter dans les aigus jusqu'au contre-là. À côté, Céline Dion, c'est le mime Marceau. C'est le jour où, invitée sur le même plateau télé que Catherine Deneuve, elle a trop poussé la voix et où tous les élastiques de Deneuve ont sauté, il a fallu la rescotcher, qu'elle a décidé de changer de carrière. Elle est maintenant comédienne et chante, mais plus bas. Alors je vois que comme invité qui utilise son organe pour travailler, vous aviez le choix entre Nathalie Dessay ou Tony Carrera, l'acteur de Popol Emploi en 2010 et des avocats de Grimpe au Barreau en 2011. Il valait mieux recevoir Nathalie. Je vois que jeudi, c'est Terry Corsena, l'un des rares moustachus à ne pas être tête de liste au régional pour Europe Écologie Les Verts, qui sera là. Tel Jean d'Ormesson, et Orsena est à l'Académie française, à cette institution de gens qui n'ont aucune personnalité. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils s'habillent tous pareil. Hein, ils ont des fringues dorées, enfin totalement bling-bling. On dirait un mariage de Libanais où il y aurait que des mecs. Nous aurons donc deux immortels dans la même semaine. Il en reste 37 à inviter.
Dont
Valéry Giscard d'Estaing, le joueur d'accordéon qui s'est fait piquer son job par les Roumains du métro. Simone Veil ou Michel Serres, qui est un type qui fait de l'effet. L'effet de serre, je vous le dis, sinon on va perdre 30 secondes. Voilà. Enfin, je vois que...
Il est déjà venu.
Eh ben, vous voyez. Je vois que vendredi, vous aurez Virginie Ledoyen, qui sera bientôt l'ambassadrice du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Alors, c'est un Qatar concours hippique avec des Qatar chevaux. Virginie, qui verra des canassons bouffer de la paille, leur dira « Mais enfin, la paille, c'est dans le nez qu'on se la met !» puisqu'elle a observé beaucoup d'acteurs. Hein. Qatar Virginie Ledoyen viendra vous voir pour un film, puis sera récupéré à la sortie de RTL par Ahmad Ben Khalifa Al Thani, l'émir du Qatar, qui l'aura acheté en même temps que la course et la ville de Paris et la France et l'univers. Oui, bon, bref, je vois que ce sera une belle semaine.
Ouais. Merci Tanguy Pastureau.
Et oui, très envie de venir chez vous.
Ah oui, oui. On marque une petite pause et on retrouve Jean d'Ormesson, notre invité pour Dieu les affaires et nous.
11h-12h30,
à la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Nous sommes toujours avec Jean d'Ormesson pour son livre publié chez Robert Laffont. Au fond, est-ce que vous sentez que vous avez une influence sur les affaires de la France ? Est-ce que toutes ces chroniques écrites depuis 35 ans dans Le Figaro et Le Figaro Magazine ont eu un effet ?
Vous savez, le journalisme est évidemment éphémère. Mmh. Vous connaissez la définition du journalisme par Gide, qui est si belle. J'appelle journalisme ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui. Oui. Vous savez, je vois bien les limites de ce que je suis. Ce que je suis, c'est au fond... modéré. Ce que j'ai essayé, c'est de défendre évidemment une certaine idée de la démocratie. Nous avons de la chance, vous savez, d'être en démocratie. Alors si j'ai eu une petite influence, j'espère que c'est en faveur de la tolérance, de la démocratie, de l'aide aux plus faibles. J'ai toujours été du côté des plus faibles. Je ne prétends pas résoudre tous ces problèmes. Mais si je peux apaiser un peu les esprits, eh ben, j'aurais pas perdu complètement mon temps.
Alors, je vous propose, dans un registre un peu plus joyeux, d'égrener les souvenirs de votre vie avec les chansons. Parce qu'en fait, votre vie, eh ben, c'est une chanson joyeuse. On commence, alors, au moment où votre père était ambassadeur en Allemagne. Je ne vous ai pas mis Lili Marlène. Hein.
Non. J'ai deux amours.
Ah, là, ce qu'on chantait à l'époque.
Mon pays est Paris. Pareil toujours. Mon cœur est ravi.
Joséphine Baker, ouais, évidemment, elle chantait ces années-là. Alors, 44, vous entrez à Normal Sup. Et
les
là.
Des sanglots longs. Des violons. De l'automne.
Qui chante, à votre avis?
Bah, Charles Trenet. Trenet.
Charles Trenet.
Qui reprend Trenet, et puis ça a été repris par la Résistance, après, ça.
C'est Charles Trenet.
Charles Trenet. Ouais.
Qui aurait pu
être à l'Académie.
Alors, vous êtes reçu à l'agrégation de philo en 49.
À la miaou, c'est tellement plus romantique. À la miaou, on fera les 400 jours. À la miaou, tous les cœurs sont en pique-nique. À la miaou, les filles n'ont pas peur du lot.
Ah, c'était sympathique. Réventura.
Réventura. Et sans ses collégiens.
Et ses collégiens.
Oui.
Ensuite, Grand Prix de l'Académie française.
C'est pas rien.
En 56.
Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore.
Bambino d'Alida, vous l'avez reconnu.
Qui n'a pas reçu le Grand Prix de l'Académie française.
Élection au fauteuil 12 de l'Académie.
Elle court 73, ça, tube de 73.
Oui, élection. Ensuite, accueilli en 74, année où vous êtes nommé directeur du Figaro.
Le téléphone pleure quand elle vient.
Et là, le téléphone, il pleurait parce que c'était pas des années... c'est dur d'être directeur du Figaro, vous l'avez raconté souvent dans vos livres.
La vraie question, c'est est-ce que le téléphone sonnait beaucoup quand vous étiez directeur du Figaro?
Il y a des chanteurs qui ont parlé de vous aussi. Jean Ferrat, par exemple.
Alors, écoutez, j'étais en train de... J'allais vous dire, il manque deux personnes que j'ai beaucoup aimées, Piaf et Jean Ferrat, que j'ai beaucoup aimé et qui m'avait fait l'honneur de faire une chanson contre moi.
Oui, mais très violente.
Mais
hein.
Très violente.
À Ferrat, oui.
C'était sur le...
La colonisation.
C'était sur le Cambodge.
Et le Cambodge.
Et j'avais dit, le régime de Bao Dai était abominable. Mais ce qui va venir va être pire.
Et on a un air de liberté.
Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Avant que cette ville...
C'est pas très sûr, Philippe, que Ferrat est devenu mon ami.
J'imagine, bien sûr. Mais il faut dire qu'il chantait merveilleusement.
Vous êtes fort.
Vous êtes fort parce que
c'est merveilleux.
Tous ceux qui vous détestent sans vous connaître finissent par vous adorer quand ils vous connaissent.
En janvier, j'avais fait un article qui s'appelait « Je suis Charlie
». Oui.
Et je me rappelle que les jeunes Charlie avaient dit « Nous vomissons ceux qui nous soutiennent
». Alors, il y en a un autre qui a tatoué votre nom sur sa poitrine.
Ah, ça, c'était pas tant Julien Doré.
Julien Doré.
Alors, ce tatouage-là, donc, Jean d'Ormesson, est-ce que tu peux maintenant nous en expliquer la signification?
C'est le nom de mon groupe de musique qui s'appelle The Jean d'Ormesson Disco Suicide.
Est-ce que tu sais ce qu'en pense le principal intéressé?
Je pense qu'il est ravi.
Bah, écoute, on va le savoir tout de suite puisqu'il est là.
C'est mieux te féliciter.
Merci beaucoup.
De dire que j'étais fier de t'accompagner sur ton épaule. De te dire que tu vas avoir des succès considérables, que tu vas faire une carrière magnifique et que moi, je t'accompagnerai comme un petit oiseau, là, sur ton épaule.
Merci beaucoup.
En plus, vous êtes voyant parce qu'il fait une merveilleuse carrière.
Il fait une carrière merveilleuse. Je suis vraiment fier. Il y a des gens qui m'ont aidé comme ça. C'est lui, c'est Gérard, c'est Fonel.
Fonel.
Ce sont des gens à qui je dois beaucoup. Oui. Vous connaissez mon histoire avec Gérard.
Oui, bien sûr. Le Figaro.
Non, mais l'histoire, je suis dans ma voiture. Et
ah oui.
Vous vous rappelez? Je suis dans la voiture, je mets la radio et j'entends Gérard qui m'imite. Et je me dis, il exagère un peu, le Figaro. Et puis là, l'émission s'arrête et c'était pas lui, c'était moi. C'était moi.
Donc vous imitez très bien Laurent Gérard.
J'étais là en train de vous imiter. Eh bien, je vous propose de retrouver tout de suite Félix Jane et Jasmine Thompson, Ain't Nobody.
11h, 12h30.
À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Toujours avec Jean d'Ormesson pour son livre Dieu, les affaires et nous. Chronique d'un demi-siècle chez, avec préfacé par Jacques Julliard chez Robert Laffont. Et je vous propose les rumeurs du net.
Les rumeurs du net.
Quand on vous a proposé de jouer le rôle du président de la République dans les saveurs du palais, aux côtés de Catherine Fraud, vous dites que vous avez réalisé un rêve. Au fond, pas d'être président de la République, mais d'être acteur.
Ah oui, j'aurais beaucoup aimé être acteur. Oui. Et vous savez, je n'ai pas été acteur, mais j'ai été romancier, c'est un peu la même chose. Ça consiste à entrer dans la peau des autres. Mm. Et je me rappelle que j'ai eu un coup de téléphone encore de Comard, qui était le producteur d'un très beau film qui s'appelle Les Hommes et des Dieux, et qui m'a dit, je prépare un film sur la cuisinière du président de la République, avec Catherine Fraud qui triomphe en ce moment.
Avec Marguerite.
Avec Marguerite, qui est admirable. Et avec Rich, mais Rich est indisponible. Le premier tour manuel est dans 5 jours. J'ai cherché les comédiens, je vous avoue que j'ai cherché les comédiens, ils étaient tous pris. Je suis descendu aux hommes politiques, ils veulent pas se mouiller. Je suis descendu plus bas encore, votre nom est sorti. Je vous donne 24 heures pour me dire oui ou non.
Et comme vous êtes poli, vous avez dit oui.
Et j'ai dit, j'ai besoin d'une minute, je vous dis oui.
Votre premier livre, le premier livre que vous avez lu et aimé, c'est Arsène Lupin de Maurice Leblanc.
Oui. Ah oui, j'ai beaucoup aimé Arsène Lupin.
On le redécouvre en ce moment, hein, on le relit. À Normal Sup, il paraît que vous aviez une carte de la CGT.
Oui, j'ai eu pendant quelques semaines une carte de la CGT.
Il paraît que votre premier article, c'était dans Paris Match, et c'était un reportage assez people, il faut bien le dire, à Noirmoutier.
Oh, ça avait fait un scandale. Ça avait fait un scandale épouvantable. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, vous savez.
C'était sur la princesse Isabelle de France, là.
Oui, parce que je disais, je me moquais un peu des gens de Noirmoutier qui m'avaient reçu très gentiment. Mais je me moquais de...
De tout.
Sans aucune méchanceté.
Ah oui, ça avait fait un scandale.
Oh, ça avait fait une histoire terrible. On a téléphoné à ma mère, donc c'était honteux d'avoir un fils comme lui.
D'ailleurs, pour vos parents, vous avez été une sorte de Tanguy avant l'heure, parce que vous êtes resté chez vos parents jusque très tard, finalement, 36 ans, non ?
36 ans, je faisais le comment ça s'appelle ? Cocon ?
Oui,
cocon. Cocoon.
C'est pas si mal d'être un Tanguy.
Et alors, ça dépend desquels.
Mon père était très sévère, vous savez, c'était un homme.
Un ambassadeur.
Et alors, évidemment, quand j'avais 20 ans, 21 ans, il y avait des filles qui me téléphonaient. Et alors, je me précipitais vers le téléphone parce que je savais que si je n'allais pas assez vite, c'est lui qui répondait. Et quand il entendait une voix de femme qui me demandait, il disait « Qu'est-ce que vous lui voulez encore ?»
Ouais, très bien, il a bien répondu aux rumeurs du net. Allez, on marque une pause et on retrouve Éric Dussard.
À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec la Coupe du Monde de rugby.
Et oui, c'est parti depuis vendredi. Alors, j'en connais un qui doit être ravi, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, on l'a vu dans le 13h de TF1 et c'est un fan de rugby. Mais attention, il n'est pas de ces fans qui hurlent en permanence. Hein. Non, Jean-Pierre est plutôt du genre... très, très discret.
Il est là, Jean-Pierre.
Aujourd'hui, Narbonne se déplace à Bayonne.
Jean-Pierre de Narbonne, il est là.
Avec Jean-Pierre Marot, le voyage ne sombre jamais dans la mélancolie. À chaque arrêt, animation garantie. Jean-Pierre collectionne les fanions. Les autocollants écrit des poèmes et même des chansons.
J'aime le jeu de tes avants, racines de Narbonne, ils ont du gnac et du mordant.
À Narbonne, tout le monde le connaît.
Ah bah tu m'étonnes, évidemment tout le monde le connaît puisqu'il passe son temps à hurler dans les rues. Hein, à Narbonne, les gens n'en peuvent plus du Jean-Pierre. Mais bon, c'est au moins la preuve que le rugby est un sport de plus en plus populaire en France. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde maîtrise parfaitement bien les règles du rugby. Surtout, souvenez-vous, cette candidate de la famille en or.
Citer une discipline sportive dans laquelle l'utilisation des bras est secondaire.
Le rugby.
Bien sûr.
Le rugby.
Du rugby sans les bras, on appelle ça du rugby manchot. Hein. T'as des gars qui courent après un ballon mais qui ne peuvent jamais l'attraper vu qu'ils n'ont pas de bras. Donc finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et les parties sont sans fin. En tout cas pour ceux et celles qui sont allergiques au rugby, bon courage. Parce que là, vous savez qu'on en a pris jusqu'au 31 octobre, date de la finale hein, de cette Coupe du Monde de rugby. Stéphane est très inquiet parce qu'il voit la concurrence pour ses émissions. Ce n'est pas le même public. Donc, profitez-en pour ceux qui n'aiment pas le rugby, soit pour regarder Stéphane Bern, soit pour vous faire des soirées entre amis. Et si vous n'avez pas d'amis, eh bien, espérons que cette nouvelle application japonaise débarque rapidement en France. Explication de cette application sur iTélé.
Madame Figaro qui nous raconte que ces Japonais font appel à une agence, une nouvelle agence qui dispose d'une application pour louer des amis. Une demi-journée avec deux amis, par exemple, ça coûte 100 euros. Derrière tout cela, il y a aussi, explique Madame Figaro, la volonté de se confier sans gêne, mais aussi de sauver les apparences. Et ça va même jusqu'à la location de membres de famille, par exemple, si des parents ne sont pas assez présentables pour un jour de mariage. Et...
On n'arrête pas le progrès. Hein. Je pense que bientôt, on pourra louer des enfants pour le baptême. Si vos enfants sont trop moches, vous pourrez en louer d'autres, éventuellement de substitution. C'est magnifique, non? Ah oui. Ça va dans le sens du progrès, j'endors me sens tout
c'est
ça.
Pas tant, ah, c'est pas tant. Est-ce qu'on peut louer des académiciens, par exemple, si on n'est pas
content
de ceux qu'on connaît?
On peut louer pour des mariages, ça serait formidable.
Alors, sinon, il existe un moyen très simple pour se faire de vrais amis cette fois. Il suffit de participer à 4 mariages pour une lune de miel. C'est une magnifique émission de TF1. Vous savez, cette émission très saine où des couples jugent mutuellement leur mariage. Et alors, je dois dire qu'ils le font toujours avec beaucoup de bienveillance.
Ce que j'ai à dire, c'est pour vous, les plus gros faux culs que j'ai jamais connus. Écoute-moi, je sais même pas comment vous faites pour vous regarder dans une glace. Vous êtes des crasseux. Ouais. Écoute-moi, vous êtes des... C'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez respecté aucun mariage. Nous, on est venus ici pour noter un mariage. On n'est pas venus pour se faire des amis, contrairement à toi.
La voiture d'Elodie, c'est une voiture assez banale de tous les jours. Contrairement à la voiture que nous, on a pris pour notre mariage, qui est une limousine.
Excuse-moi, nous n'avons pas les mêmes valeurs.
Qui pète plus haut que son cul, un jour se chie dessus.
Ah oui.
C'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit et c'est très joliment dit en plus.
Oh mon Dieu.
C'est chic. C'est chic. C'est très en même chic. Temps, excusez-moi. C'est presque du Jean d'Ormesson. Moi, je me souviens très bien de ce que vous aviez dit, cher Jean d'Ormesson, dans le Grand Journal. Hein.
Ne cherchez jamais à péter plus haut que votre cul.
Eh bien, vous voyez, quand c'est un académicien qui le dit, ça passe tout de suite beaucoup mieux.
Hein.
Oui,
c'est du Montaigne.
C'est du Montaigne.
C'est Montaigne.
C'est Montaigne.
Montaigne. Ouais. Même sur un trône, on est toujours assis sur son cul.
Oui, absolument.
Ouais. C'est juste. Ouais. Ouais.
Alors, présentons maintenant à Jean d'Ormesson ses futurs collègues.
Oui, vos futurs voisins de siège à l'Académie française, ces candidats des 12 coups de midi qui enrichissent sans cesse la langue française de nouvelles expressions. Hein. À commencer par ce monsieur.
Top ! Selon l'expression, que coupe-t-on en quatre quand on est tantillon ?
Les citrons.
Les cheveux en quatre.
Donc ça c'est quand on prépare des mojitos, hein, qu'on coupe les citrons en quatre. Donc si on reste sur son idée maintenant, on ne doit plus dire tirer par les cheveux, mais tirer par les citrons. Ce qui est pas mal non plus. Bon, les expressions françaises, de toute façon, ça a toujours été le thème de prédilection des candidats de Jean-Luc Reichmann.
Selon l'expression, quand on renonce à quelque chose, on baisse les...
Rideaux.
Les bras. Selon l'expression, que brise-t-on pour détendre les rapports entre les gens?
On brise la voile.
Selon l'expression, pourquoi ne faut-il pas lâcher la proie
avant de l'avoir tué.
Selon l'expression, que tire-t-on du nez de quelqu'un lorsqu'on veut le faire parler?
Les poils.
Non, ça c'est quand on veut le faire pleurer, parce que ça fait très très mal. Voilà, ce sera donc le dictionnaire des expressions aux éditions de l'à peu près, hein, avec les candidats de Jean-Luc Reichmann.
Et on termine avec les anges de la télé-réalité.
Oui, sachez qu'ils auraient aimé préfacer votre livre, cher Jean d'Ormesson, Dieu, les affaires et nous. Non, parce qu'il y a Dieu dans le titre et la Bible, c'est vraiment leur truc. Il suffit de les entendre parler d'Adam et Ève à travers, là encore, une expression revisitée. On ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam.
Mais la vérité, sans toi ici, c'est pas possible.
Ouais.
C'est pas possible, ouais. Le matin, la joie de vivre, c'est pas possible.
C'est clair.
Et Benjamin, c'est la même chose, tu vois. On arrive à ça du jeu où on est. Maintenant, c'est bon, il y a plus de. On se connaît d'avant, ni d'Ève, ni d'Ève. On se connaît d'avant, ni d'Ève, ni d'Ève.
On se connaît d'Adam, ni d'Ève. Donc d'avant pour Sophie d'avant, hein, et d'Ève pour le chanteur. Ça veut dire qu'il connaît ni Sophie d'avant, ni d'Ève. Alors, plus grand désespoir.
Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Eric. Allez, à demain. On va marquer
vous
une
savez,
pause.
Vous savez, Stéphane, c'est pour rebondir sur ce que disait Eric Dussard, la différence entre un académicien et une star académicienne, ah oui. C'est qu'il y en a un qui termine en fauteuil alors que l'autre termine en pouf.
Pas mal.
C'est juste. Ah,
ça, c'est du Régis Maillot. Ben, ça, vous pouvez l'inscrire dans votre dictionnaire. Elle est pas mal.
Bah non, parce que c'est une phrase brillante.
Donc oui. Oui. Ok, je vais la sortir dans un dîner. Moi, je vais briller enfin.
Ah oui. Faites-la bien, par contre.
Merci beaucoup, Vincent Parisot. Et nous retrouvons maintenant Jean d'Ormesson. Alors, Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre époque et qu'est-ce qui vous déplaît le plus?
Je fais partie des gens qui refusent absolument l'idée « c'était mieux avant ».
Le déclin, vous n'êtes pas un décliniste.
C'est un peu plus compliqué que ça.
C'est pas pareil.
Si je vous disais que la langue française tient le même rôle aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Ce que je vous propose, parce que moi je pose que des questions plutôt aimables et gentilles, mais les autres ont préparé une question imposée à poser.
La question imposée à poser.
Je vous l'offre. C'est une question pour vous.
Imposée à poser. J'ouvre cette
enveloppe. Oui, il va même falloir lire la question.
Et le gagnant est...
Le gagnant, c'est Stéphane Bern.
Oh,
vous parlez beaucoup de Dieu. Il était présent dans votre œuvre et même dans les titres de vos livres. Mais dans votre vie, est-ce que vous n'avez pas plus aimé et vénéré les femmes que Dieu? Alors la réponse est non. Non, j'ai beaucoup aimé les femmes, mais s'il faut choisir, je choisis quand même Dieu.
Grande déception de David Moreau, qui est venu assister à l'émission.
Il y a une vieille dame qui m'a écrit une lettre qui m'a beaucoup frappé. Elle m'a dit « On ne parle pas de Dieu ». On parle à Dieu. Pas si mal.
Bien. On marque une pause et puis maintenant on va jouer dans un tout petit instant pour gagner un séjour. Enfin, c'est un très beau séjour au domaine du château du Faucon.
Berne et moi.
Just a second.
Ou pas.
Et bien, c'est le moment de jouer pour tenter de remporter ce très beau séjour. Dans ce château, hôtel 4 étoiles avec 34 chambres, c'est près de Charleville-Mézières, c'est le domaine du château du Faucon. Eh bien, pour cela, Patrice, on va appeler Marc. Ah. Marc habite dans le Nord. Nous allons l'appeler tout de suite.
Oui, allô ?
Oui, bonjour, c'est Stéphane Bern d'RTL. Est-ce que je pourrais parler à Marc, s'il vous plaît ?
C'est pas vrai, Stéphane, c'est moi-même.
Ah, très bien, quelle joie ! Ah, me voilà soulagé, vous savez. Alors, je suis très heureux de vous entendre, cher Marc, parce que nous allons jouer avec vous. Et Patrice Carmousse va vous poser des questions et j'espère que vous allez gagner ce séjour idyllique au château de Faucon. Alors, Patrice.
Alors, la question de sélection, c'était d'abord de quel journal Jean d'Ormesson avait été le directeur ?
Le Figaro.
Bonne réponse. Très bien.
Alors maintenant, la question est un peu plus compliquée. Elle concerne l'Académie française. Mais vous pouvez prendre un joker. Jean d'Ormesson occupe le fauteuil numéro 12 de l'Académie française, où il a succédé à Jules Romain, on l'a dit tout à l'heure. Mais parmi ces trois grands écrivains, un seul a siégé au Quai Conti, lequel ? Est-ce que c'est Flaubert ? Est-ce que c'est Hugo ? Ou est-ce que c'est Balzac ?
Joker, je vais prendre Joker.
Alors, la réponse, Jean d'Ormesson, vous la connaissez ?
Bah oui, évidemment.
Ce n'est pas Flaubert. Malheureusement, pas Balzac.
Mais c'est Hugo.
C'est Hugo. Il s'est présenté quatre fois.
C'est pas été facile.
Eh bien, alors, bonne réponse.
Est-ce qu'il valide
Vous validez la réponse de Jean d'Ormesson ?
Ah oh ben oui, entièrement.
Ah ben voilà, très bien. C'est gagné. C'est gagné, vous gagnez ce séjour au domaine Château de Faucon. Et j'ai un cadeau supplémentaire à vous offrir. Deux places pour le film Le Grand Jour, qui sort mercredi ce mercredi dans les salles. C'est un film RTL. Et pour cela, il faut répondre à une question de fidélité.
Voilà. Alors c'est quel est le nom du livre de Jean d'Ormesson ? Est-ce que c'est « Je pense, donc je suis » ou est-ce que c'est « Dieu, les affaires et nous » ?
C'est la deuxième.
Dieu les a donné une bonne réponse. Bravo. C'est vous qui gagnez, Marc. Merci de votre fidélité et merci de nous écouter dans La Bonne Heure sur RTL. Je vous souhaite une très bonne journée. Nous, on va écouter Francis Cabrel, Dur comme fer.
RTL, à La Bonne Heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Jean d'Ormesson, Dieu les affaires et nous. J'avais une question un peu coquine à vous poser, cher Jean. Vous savez qu'il y a eu un très bon portrait de vous écrit il y a quelque temps dans le Figaro par le prix Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa. Et vous a-t-il dit qu'en quittant sa femme et en étant avec la pétroleuse Isabelle Pressler, ses ventes avaient doublé en librairie ?
Non, mais j'ai appris cette nouvelle avec beaucoup de plaisir et je lui envoie tous mes voeux de bonheur.
De bonheur, oui, oui. Il faut rappeler qu'Isabelle Pressler a été mariée à Julio Iglesias, au marquis des Grignon et ensuite au ministre de l'économie, Miguel Bosé. Et maintenant, donc, elle est avec
Vargas. Il a du charme, Vargas.
Il a du charme.
Et elle a beaucoup de charme.
Elle aussi, elle est très jolie.
C'est une très belle carrière.
Ah ben bah oui. Il faut dire, elle est arrivée des Philippines. Et c'est vrai qu'il fallait que ça vaille le déplacement.
Eh ben voilà.
Eh ben voilà.
Ça fait rien. Et je ne sais pas si dans sa vie... elle aura été une seule fois avec quelqu'un d'inconnu.
Elle est très belle.
Elle est très belle.
C'est un bel hommage, voilà. Laurent, en tout cas.
Qu'on peut dire. Oui. Oui, Régis, vous aviez une question.
Oui, je voudrais remettre un peu plus de hauteur dans cette émission. On va faire un tour du côté de nos légiférantes. Dans la série Faites ce que je dis, vous savez, les sénateurs ont siégé. Alors, si j'ai bien compris, les sénateurs ont décidé cette semaine d'interdire les happy hour chez les jeunes après avoir vidé une bouteille d'eau brillant à la buvette du Palais du Luxembourg. Ensuite, ils ont décidé de proscrire le paquet de cigarettes neutre autour d'un bon cigare également. Et enfin, Gérard Larcher s'est offusqué du danger de l'anorexie après avoir dévoré deux sangliers au restaurant du Sénat. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu pour la loi sur la transparence.
Merci Régis, vous avez raison.
Alors, pas guetté par l'anorexie.
Il y a plein de choses qui sont interdites dans le monde. Mais parce que c'est des reliquats des anciennes lois ou des choses qui peuvent poser problème. Par exemple, savez-vous qu'en France, depuis Napoléon, on n'a pas le droit d'appeler son cochon Napoléon.
C'est un vrai problème au quotidien.
Non mais
il y a beaucoup de gens qui se plaignent.
Je le dis pour ceux qui donnent un nom à un cochon, parce que bon.
Pour ceux qui ont un cochon déjà.
Un nom à un cochon.
Copain comme cochon.
Ah mais c'est un copain, c'est un. Vous avez raison. Mais écoutez, c'est dans le code Napoléon. Eh bien, cette loi n'a jamais été changée, abrogée. Donc, on n'a pas le droit de...
Il y a eu pendant longtemps l'interdiction du pantalon pour les femmes.
Ça a été modifié. Exactement. Alors, par exemple, on n'a pas le droit de... Depuis 1992, à Singapour, il est interdit de mâcher du chewing-gum.
Ça, c'est pas bête.
Sauf pour les
cochons.
C'est pas
bête. Non, c'est pour la propreté, en fait.
La propreté. Et puis, parce qu'il y avait... un jour, ça a bloqué une porte d'ouverture d'une porte du métro de Singapour.
C'était quoi, chewing-gum?
Et donc...
Et amende de 1000 euros.
Il y a des amendes. 1000 euros.
Et vous n'avez le droit de mâcher du chewing-gum que si vous avez une ordonnance de votre médecin pour des questions
publiques. Sinon, il vous enlève les dents.
Qu'est-ce qui est d'autre interdit? Par exemple, en Turquie, les Pokémon sont interdits.
Ah oui.
Oui, parce qu'il y a deux enfants qui ont sauté de leur balcon.
Ouais.
Et donc, il y a eu des accidents de Pokémon. Et donc, interdit.
Attendez, Stéphane, il n'y a pas que les Pokémon, il y a les Kurdes aussi.
Oui, c'est vrai. Mais
bon. Ça, ils le disent moins. Ils le font.
Vous savez que, par exemple, au cinéma au Chine, il est interdit, et même dans les fictions, de remonter le temps. On n'a pas le droit de raconter
les flashbacks
sont interdits. Et oui. Parce que ça laisserait penser que dans le passé était mieux.
Voilà. C'était mieux avant.
Et donc c'est contraire à la mentalité du gouvernement chinois.
Oui, on comprend d'où ça vient.
Voilà.
En Arabie Saoudite.
En Arabie Saoudite, c'est
la Saint-Valentin.
La Saint-Valentin est interdite. Oui.
Ça, moi, je dis c'est pas mal.
Et le rouge aussi. Ouais. Alors, le rouge est strictement...
En même temps, le rouge à lèvres sous un niqab...
C'est difficile. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a un marché noir pour le rouge.
Oui. Le Yupala est interdit au Canada. Parce que c'est trop dangereux pour les bébés. Et oui. Et aux États-Unis, c'est le Kinder Surprise parce qu'il y a des enfants qui sont étouffés avec la surprise.
Et George Bush, c'était avec quoi? C'était avec
un bretzel
aussi.
Il y a des choses qui peuvent, en revanche, être autorisées. C'est le retour de l'uniforme. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous avez connu, j'imagine, la blouse ou peut-être l'uniforme à l'école?
Ah non, moi, j'ai rien connu du tout. Ah, j'ai jamais été à l'école.
Ah, vous étiez avant Jules Ferry.
On vous en sait.
Non, mais il avait des petits privilèges quand même. En voyageant, d'ailleurs.
Oui. Vous étiez fils d'ambassadeur, donc forcément.
Oui, c'est parce que j'étais à l'étranger.
À l'étranger. Mais vous êtes plutôt pour ceux qui sont pour l'uniforme à l'école. Sont ceux qui pensent que ça uniformiserait. Oui, au fond, il n'y aurait pas les origines sociales. Et ça éviterait tous les signes religieux aussi.
C'est sûrement pas absurde.
C'est pas absurde.
Non.
Bon. Et pourquoi il y a des gens qui sont contre?
Oui, quels sont les arguments?
D'abord, les gens disent que c'est une vieille revendication qui revient depuis 68.
Mais c'est pour l'égalité, la laïcité. Ouais. C'est contre l'hypersexualisation des filles.
Ouais.
contre les tenues provocantes, il faut dire que...
Alors, après, ce qu'ils disent, c'est que ce que disent les opposants, c'est que si les élèves sont tous habillés pareil, les différences se verront sur les détails. C'est-à-dire que les cartables ne seront pas les mêmes, les sacs ne seront pas les mêmes, la façon, voilà.
Et les notes aussi, peut-être.
Oui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'habillent pas en jean.
Oui.
Oui, c'est ça, oui. Tous. Alors qu'ils sont tous en jean. Oui.
Mais ils sont tous en jean.
Tout le monde ensuite est le même cartable. Et oui, il faudrait que tout le monde soit élevé par les mêmes parents.
Absolument.
Oui, c'est ça. On vient à un uniforme. Oui, entre l'uniforme et l'uniformisation, il y a quelque chose quand même.
C'est validé par la Corée du Nord.
Jean Dormesson.
Je vais vous dire mon opinion. Je veux bien qu'on discute sur l'uniforme à l'école, mais pas ailleurs.
Ah oui.
Je ne veux pas qu'on mette tout le monde en uniforme.
Exactement.
Chez moi, le smoking au César, j'en ai marre.
Je vous propose de marquer une pause, de retrouver Jean Dormesson pour la dernière séquence, les questions en rafale.
Les questions rafales d'À la bonne heure.
Est-ce que vous préférez votre fille, Héloïse Dormesson, ou Antoine Gallimard? vos deux éditeurs.
C'était un problème très difficile pour moi, vous savez. Oui. Naturellement, j'aime beaucoup ma fille, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle a monté une maison d'édition épatante. Oui. Et je suis aussi très attaché à Gallimard. Et ça a été... un problème très difficile pour moi. Et il faut ajouter Lafon. Je suis très attaché à Lafon. J'ai publié beaucoup de livres chez Lafon. Dieu, les affaires et nous, c'est publié chez Lafon.
C'est Robert Lafon, absolument.
Et donc, vous touchez un point très délicat.
Si vous aviez le pouvoir de ressusciter un écrivain avec lequel vous voudriez converser, lequel vous feriez revenir ?
Oh ben oui, évidemment, je serais enchanté de parler avec Chateaubriand, sûrement.
Vous nous avez confié votre admiration pour Piaf. Est-ce que le Milord que vous êtes regrette rien de rien
Rien, c'était merveilleux. Piaf, c'était merveilleux, je dois vous dire. Elle était venue à l'école normale chanter pour dans l'école normale, on était en turne. Et une turne, c'est un cabinet de travail où on est cinq. Elle est venue chanter pour nous cinq.
Oh, c'est merveilleux.
C'est merveilleux. Rien de rien, c'est merveilleux. Peut-être les amants d'un jour.
Ah, merveilleux.
C'est peut-être
ça.
Encore mieux. Mmh. Avec le verre qui se casse à la fin. Vous rappelez.
Vous ne regrettez rien, donc ?
Je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien.
Bon. D'autres questions ?
Avez-vous des phobies ?
Peut-être...
socialiste ?
Je n'aime pas beaucoup le pot-au-feu.
Voilà, le pot-au-feu. Pas comme phobie. Enfin, un ennemi.
Ça s'appelle pot-au-feu.
Mais ce n'est pas une phobie.
C'est pot-au-feu. Très drôle.
Est-ce que vous recevez, Jean, beaucoup de lettres d'amour, à part les miennes, bien sûr ?
Vous voulez que je vous réponde ? Énormément.
C'est vrai ? Les demandes en mariage, ça va jusque-là ?
Non, il ne faut pas exagérer. Tout le monde sait qu'il est marié.
Une spécialité de fou.
Et vous arrivez de regarder des choses complètement idiotes à la télévision ?
Sûrement.
Et vous y prenez du plaisir ?
Énormément.
Eh ben bravo.
Et je participe avec joie. Et j'y contribue avec joie.
Bon, moins que d'autres. Bien moins
quoi
que
qu'il
d'autres.
En soit, c'était un bonheur toujours de vous recevoir dans la bonne heure. Vraiment. Vous nous manquiez un peu ces derniers temps, donc on est ravis de vous avoir retrouvé plus jeune et plus gaillard que jamais et toujours aussi drôle.
Non, mais tant, vous n'avez pas dit comme j'étais beau.
Mais vous êtes beau, mais bien sûr, mais...
On le laissait à Daniel.
En même temps, je ne voudrais pas augmenter le nombre de lettres d'amour que vous allez recevoir.
Vous n'avez pas répondu à ma dernière.
Vous pouvez parler de combien j'en envoie.
En tout cas, vous nous avez envoyé un beau cadeau. Dieu les a fait et nous. Et c'est un formidable livre. Ces chroniques publiées chez Robert Laffont. Merci beaucoup. Demain, nous serons dans un autre genre avec Manu Payette qui viendra nous parler de ses débuts prometteurs au cinéma. Merci à tous. Bonne journée RTL. Il est midi et demi.